France Culture.
Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour Caroline.
À voix nue, troisième épisode, le cœur théorique, la croissance par destruction créatrice. On est là au cœur de votre travail, après avoir vu votre formation, votre jeunesse aux États-Unis, votre formation d'économiste entre macro et microéconomique. Je crois que c'est notre moment schumpeterien, d'une certaine façon. On va aussi s'aider et s'appuyer sur le livre que vous avez fait paraître en 2021, Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin et Simon Bunel, paru chez Odile Jacob. Et on va donc partir de Schumpeter, que vous avez déjà mentionné, Joseph Schumpeter, économiste. L'idée de destruction créatrice, c'est une idée ancienne, c'est une idée au départ de Joseph Schumpeter.
Oui, mais inspirée par Marx.
Qui était Joseph Schumpeter ?
Donc Joseph Schumpeter, c'est un économiste autrichien, il disait « je peux être bon cavalier, bon amant et bon économiste ». Et moi, je suis bon à deux des trois. Je pense qu'il n'était pas bon cavalier. Voilà, ça c'est mon guess, comme on dit. Mais voilà, et il a été ministre des Finances en Autriche. Et puis, il a été prof à Harvard, également.
À quelle époque ?
Oh, il a été prof à Harvard de fin 40, début 50, après-guerre. Et il est mort en 51.
Alors, si je donne les trois idées de Schumpeter, j'aimerais bien que vous me...
Non, il n'y a pas trois idées de Schumpeter.
Ah bon ?
Non. Schumpeter, il y a une idée. C'est l'idée de la destruction créatrice. C'est-à-dire de dire, les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Ce qui est une légère amélioration de l'idée d'obsolescence qu'il y a chez Marx dans le livre 3. Hein, on est bien d'accord? Voilà. Mais je ne veux pas enlever le mérite de Schumpeter. Quand j'étais étudiant, comme je vous ai dit, le modèle dominant, c'était le modèle de Solow. Il n'y avait pas de modèle de croissance schumpeterien. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'analyse empirique schumpeterienne. Donc, avec Peter Howitt, on a construit un modèle de croissance qu'on appelle le modèle de croissance schumpeterien. Mais c'est pas la théorie de Schumpeter. C'est la théorie de Aguillon-Howitt. D'accord. La théorie d'Aguillon-Howitt, c'est trois idées de base. La première idée, c'est que la croissance de long terme, c'est l'innovation cumulative. Chaque innovateur bâtit sur les innovations précédentes. Vous êtes toujours sur des épaules de géants, d'accord ? La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle est le produit d'investissements d'entrepreneurs qui font ces investissements en recherche-développement, notamment, parce qu'ils espèrent, s'ils innovent, avoir une rente d'innovation. Si j'innove, je fais un meilleur produit, un nouveau produit, ou je produis moins cher que les autres, et donc ça me donne des rentes de monopole pendant un certain temps, jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. D'accord ? Donc c'est la perspective de ces rentes qui font que j'investis dans l'innovation. La troisième idée, c'est la destruction créatrice. Les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et ça, c'est notre théorie à nous, ça. Et il y a une contradiction au cœur de cette théorie. D'un côté, ils vous font les rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais de l'autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas être, eux, sujets à la destruction créatrice. Et réguler l'économie de marché, c'est de gérer cette contradiction-là. Et elle est partout, en fait. Et donc, on peut... Et cette théorie est très puissante parce que, d'abord, il y a des faits empiriques qu'elle permet d'expliquer. Et puis, ensuite, il y a des énigmes historiques qu'elle permet d'élucider. Et elle permet de repenser le capitalisme. Elle permet de repenser la politique de croissance. On a des disciples et c'est devenu une théorie dominante. Au cœur, c'est l'entrepreneur et l'entreprise. Je suis quelqu'un de talentueux, je suis un bon innovateur, je crée un nouveau produit. Mon entreprise grandit ou ne grandit pas. Et puis, évidemment, quand j'ai grandi, je suis tenté d'empêcher des nouveaux innovateurs d'arriver. D'où l'importance de la politique de concurrence pour permettre à des nouveaux d'arriver sans arrêt. Et c'est ça le cœur de la croissance. Le cœur de la croissance, c'est qu'il faut permettre à des gens talentueux de créer, de se développer, mais de s'assurer en même temps qu'au mesure qu'ils se développent, ils n'empêchent pas qu'il y ait sans arrêt des nouveaux talents qui arrivent. Et c'est ce monde-là que je décris dans mon modèle avec Peter Howitt.
Ça donne quoi confronté à une pratique empirique ? Est-ce que par exemple...
Ah ben alors ça vous donne des prédictions très simples. Par exemple, là où il y a de la croissance, c'est là où il y a sans arrêt de la création d'entreprises nouvelles ou des créations et des destructions d'emplois. C'est un fait empirique vérifiable.
Ça explique parfois pourquoi certains pays croissent, pourquoi certains d'autres stagnent, pourquoi certains s'enrichissent, pourquoi certains...
Et certains commencent à croître et s'arrêtent de croître.
Par exemple ?
Japon. Le Japon croît et ne croît plus depuis 90. L'Europe a cru très vite, on a raté les 30 glorieuses et puis après on ralentit notre croissance. Tout ça, la théorie schumpeterienne permet de le comprendre.
Même la relative croissance américaine après l'explosion de la théorie ou la vague des technologies de l'information.
Voilà. Pourquoi la croissance a été dopée entre 95 et 2005 aux États-Unis et pourquoi elle est retombée à partir de 2005.
Et ben alors pourquoi ? Prenons cet exemple-là.
Et ben cet exemple-là, ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution des technologies de l'information, il y a l'émergence des superstars, des GAFAM. Donc elles savent mieux que d'autres tirer parti de cette révolution, et c'est Google, Microsoft, Walmart, etc., elles se développent beaucoup, notamment avec des fusions-acquisitions, et là, la politique de concurrence aurait pu un peu réguler ça mieux, elles se développent tellement qu'au début, elles dopent la croissance américaine, parce qu'elles savent utiliser la technologie de l'information mieux que les autres, donc elles poussent la croissance américaine, mais elles deviennent tellement tentaculaires qu'elles finissent par décourager l'entrée de nouveaux innovants. Et c'est ça qui fait qu'il y a déclin de la croissance. C'est très choupetérien, ce que je vous dis. Et ça, notre théorie permet de le comprendre. Mais en même temps, c'est assez optimiste, parce que ça vous dit, si j'avais une meilleure politique de concurrence aux États-Unis, je peux faire repartir la croissance.
Vous dites que l'entreprise, elle est au cœur. De fait, au
l'entreprise cœur, est parfaitement au cœur.
Elle est au cœur. Mais elle n'est pas la seule, me semble-t-il, dans votre théorie, Philippe Aguillon.
Et le chercheur.
Il y a d'autres institutions qui oui. favorisent. Alors évidemment, la recherche universitaire, bien sûr, oui. mais il y a, dans votre théorie, l'importance cruciale de l'État.
Voilà, l'État est très important. Parce que pourquoi l'État est important ? D'abord parce qu'il faut éduquer. Si j'ai un meilleur système d'éducation, j'ai beaucoup plus de gens qui peuvent devenir des innovateurs ou de s'adapter à l'innovation. Donc il faut un bon système éducatif où on apprend à apprendre. Nous, notre système éducatif s'est détérioré en France. Nos tests PISA, qui mesurent la capacité de notre système éducatif à ce que les gens apprennent à lire, à écrire, à compter, à faire des maths de base, nos tests se sont détériorés et notre performance PISA se sont détériorées. Elles sont de plus en plus liées au milieu social. Ça, ça va pas. Il faut une école où, quel que soit le milieu social, j'ai des bonnes performances à la lecture, au calcul, au raisonnement mathématique, etc. Ça, c'est très important parce que le vivier d'innovateurs potentiels, il vient de là. Politique de l'État très importante, d'accord ? Ensuite, il y a la politique de recherche dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai pas une recherche très bien financée, je ne peux pas prétendre être un pays innovant. Mais il y a la politique de concurrence également, puisque je dois m'assurer que les entreprises en place, les innovateurs d'hier qui ont prospéré et sont devenus des grosses entreprises, n'empêchent pas des nouveaux d'arriver. Et là, la politique de concurrence est fondamentale. Et ça, c'est à nouveau l'État qui met en œuvre la politique de concurrence. C'est les États, l'État ou les États. Donc ça, c'est des politiques. Et puis, il y a une autre politique très importante, c'est ce que j'appelle la flexisécurité. Je suis très danois, je disais que je suis très scandinave. Vous voyez, au Danemark, parce que vous voyez, le problème de la destruction créatrice, c'est que c'est des créations d'emplois et des destructions d'emplois. Et avec l'IA, ça va être plus que jamais. L'IA va détruire beaucoup d'emplois, elle en détruit déjà beaucoup, mais je pense qu'elle va aussi en créer. Pour prendre la main, il faut aider à ce que la transition de l'emploi que je perds vers l'emploi que je vais avoir se fasse le mieux possible. Et les Danois, au Danemark, quand tu perds ton emploi, pendant 2 ans, tu reçois 90% de ton salaire, l'État te forme et t'aide à trouver un nouvel emploi. Donc ça, il nous faut un système comme ça. Je crois beaucoup dans la flexisécurité. Et là, le gouvernement a un rôle très important à jouer. Donc je crois beaucoup au rôle du gouvernement. Mais je crois aussi au rôle de la société civile. Et ça, c'est le triangle. Donc il y a l'entreprise qui innove, le gouvernement, politique d'éducation, politique de recherche, politique industrielle, on en parlera tout à l'heure, politique de la flexisécurité, parce qu'on parlera de la politique industrielle, très importante également. Et la société civile, parce que sinon, il y a toujours le risque qu'on voit aux États-Unis en ce moment de collusion entre les grosses entreprises existantes et les gouvernements. Et qui peut dénoncer cette corruption, cette collusion ? C'est la société civile. C'est vous, c'est les médias, c'est les syndicats, c'est les électeurs. Et donc, on a besoin du triangle, là, vous voyez ?
Donc, si je vous demande, Philippe Aguillon, à qui profite l'innovation, vous me répondez nécessairement, ça dépend des conditions dans lesquelles l'innovation.
Oui, mais l'innovation, globalement, elle peut profiter. Alors, tout dépend ce qu'on en fait de l'innovation. Parce que, par exemple, l'IA, si on a un bon système d'éducation et de flexisécurité, l'IA, c'est un formidable vivier de croissance. Mais s'il n'y a pas ces institutions-là, l'IA peut faire beaucoup de mal également. Vous voyez, la technologie est comme un cheval fougueux. Il peut vous amener dans le mur ou il peut vous donner beaucoup de prospérité. Et tout dépend. C'est à nous, les sociétés, quoi, de mettre en place les politiques et les institutions qui guident le cheval là où il faut. Et c'est pour ça que notre bonheur, notre prospérité et le résultat joint des technologies, de l'innovation d'un côté technologique et des institutions qu'on met en place en face. Par exemple, la stagnation séculaire, si aux États-Unis il y avait de meilleures politiques de concurrence, eh bien il n'y aurait pas eu ce déclin de la croissance à partir des années 2000, voyez. Parce qu'on aurait davantage exigé des GAFAM, qu'elles partagent leurs données. On ne les aurait pas laissé autant grandir par fusion-acquisition. Et on se serait assuré davantage que des nouveaux innovants puissent rentrer dans le marché.
C'est aussi ce qui explique, par exemple, que perdre son emploi au Danemark, puisque vous parlez...
n'a aucun effet négatif sur la santé. Alexandra Roulet qui l'a montré. C'est ma collègue Alexandra Roulet, oui.
Donc n'a pas les mêmes incidences que perdre
aux États-Unis. dramatique. Là, il y a ce qu'on appelle les morts de désespoir que mon collègue Angus Deaton, prix Nobel d'économie 2015, a mis en évidence avec Anne Case. Quand vous perdez votre emploi aux États-Unis, non seulement vous perdez beaucoup de revenus, mais vous perdez l'accès à la santé en grande partie. Donc, il y a un stress énorme. Les gens prennent plein d'opioïdes et d'antidépresseurs. Et puis, il y a d'où l'augmentation de mortalité.
Mais vous dites qu'il faut que l'État agisse, que l'État soit fort, que la société civile contrôle aussi tout ça et ait son mot à dire. Est-ce que malgré tout, ça peut suffire quand vous considérez que une entreprise vient s'installer avec une innovation technologique importante, remplacer d'autres? Dans la mesure où elle remplace d'autres, elle les tue pas, mais enfin, elle supprime... Beaucoup.
Alors, il y a des créations et des destructions d'emplois, mais c'est là qu'il faut savoir gérer les emplois perdus. C'est là que le système danois est supérieur. C'est-à-dire que le système danois permet aux entreprises d'embaucher et de licencier. Alors, s'il y a un abus, évidemment, ils ont un malus, hein. Donc, d'accord. Moi, je crois beaucoup dans les bonus-malus. Mais, en même temps, les individus, eux, sont protégés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Et en fait, ça fait que la destruction créatrice au Danemark marche beaucoup mieux parce que on forme les individus pour qu'ils rebondissent sur un nouvel emploi avec une bonne qualification et en même temps, ils sont protégés. Il faut pas empêcher la destruction créatrice, mais il faut la rendre à la fois plus efficace et plus protectrice.
Oui, parce que quand on voit une entreprise fermée, oui. La destruction, elle est immédiate, la création, elle est incertaine.
Si je peux dire que, par exemple, je fais en sorte... Nous, on avait dans le rapport Attali, on avait le contrat d'évolution. Je trouvais une très belle idée. Tu es toujours en contrat, mais tu es soit en formation, soit en emploi. Mais tu es toujours, toi, en contrat. Je trouvais que c'était une très belle idée, le contrat d'évolution.
Qu'est-ce que vous dites, Philippe Aguillon ? C'est bien de se faire l'avocat du diable, sinon c'est pas rigolo. Qu'est-ce que vous dites, Philippe Aguillon, des critiques qui ont été émises à l'encontre de votre théorie de la croissance par destruction créatrice ? Certains, on l'a entendu, disent que c'est dangereux parce que ça provoque la fermeture d'entreprises ou d'usines, ça provoque la précarisation, c'est de la casse sociale au nom de l'efficacité. Enfin, il y a un côté néolibéral. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je dis tout est la manière de le faire. C'est-à-dire, je pense pas que les Danois soient des néolibéraux. Je pense pas. Je pense qu'ils ont une manière, justement, non néolibérale d'en faire.
Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce modèle? Alors, on a longtemps dit le modèle suédois. Maintenant, vous dites le modèle danois.
Alors, le modèle suédois, ce qui est passé. Alors, la Suède est un pays, très beau pays aussi. Et il y a de l'innovation, il y a de la mobilité sociale. Ils ont fait des réformes éducatives qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont autorisé, par exemple, que les écoles fassent des profits. Donc les écoles essayent d'attirer des gens en disant on va vous mettre des bonnes notes, on va vous aviez même vous amuser. Donc les parents éduqués évidemment ils savent très bien qu'il faut pas mettre leurs enfants dans ces écoles-là et les parents pas éduqués mettent les enfants dans ces écoles-là. Donc ça a créé l'inégalité. Il y a eu disons des réformes en Suède qui ont pas été très heureuses je dirais, mais c'est quand même un bon système dans l'ensemble. Je trouve que le Danemark ça marche mieux quand même, mais la Suède c'est pas mal non plus.
Mais quand on vous écoute, on devrait suivre le modèle scandinave et tout irait bien.
Le
alors
à notre,
pourquoi ne le fait-on pas?
Écoutez, je sais pas, il faut convaincre, il faut peut-être qu'on y arrive. Et puis il faut pas faire de la décalcomanie, il faut faire à notre manière. Mais il faudra certainement quelque chose comme de la flexisécurité, parce que de plus en plus, il y aura des créations et des destructions d'emplois à un rythme accéléré. Donc il faut que les gens puissent rebondir et en même temps ne pas sentir qu'ils ont une déchéance, qu'ils ont une détérioration de leurs conditions de travail ou qu'ils ont qu'ils se sentent dégradés quoi, d'une quelque façon que ce soit. Donc je pense qu'il faudra mettre des politiques comme ça en place.
Est-ce que l'innovation, elle peut être source d'inégalité ?
Elle peut tout à fait être source d'inégalité. Alors c'est très intéressant, innovation, inégalité. C'est-à-dire que c'est évident, par exemple, si j'innove, je fais des rentes d'innovation. Ça fait que moi, je monte au top de la distribution des revenus. Mais en même temps, l'innovation, elle génère de la mobilité sociale, parce que la destruction créatrice est liée à la mobilité sociale. Qu'est-ce que c'est la destruction créatrice ? C'est quelqu'un qui n'était pas important, qui devient plus important, au détriment de quelqu'un qui est là et qui va du coup baisser dans l'échelle sociale. Voyez dans le... Et donc, en fait, et on le montre, moi dans mes travaux, que la destruction créatrice, notamment l'arrivée de nouvelles entreprises innovantes, est une source de mobilité sociale. Donc c'est intéressant, l'innovation, c'est vrai qu'elle augmente l'inégalité en haut de la distribution des revenus, mais elle augmente également la mobilité sociale. Et si on regarde l'effet de l'innovation sur une mesure globale d'inégalité, qui est ce qu'on appelle le Gini, qui est une mesure d'écart global à l'égalité parfaite, eh bien on voit qu'il n'y a pas d'effet de l'innovation sur l'inégalité globale. C'est très intéressant. Donc il y a une relation complexe entre différentes mesures d'inégalité et l'innovation. Voyez, l'innovation est une source d'inégalité en haut, mais qui est une bonne source parce qu'elle vous donne de la croissance, elle vous donne de la mobilité sociale et elle n'augmente pas les inégalités globales.
Alors, elle vous donne de la croissance. J'ai envie de vous poser la question très 21e siècle, d'une certaine façon.
Historiquement, c'est le cas. Il y a eu des études historiques qui montrent vraiment le lien entre innovation et croissance. C'est pas juste dans ma théorie. Il y a des études historiques sur des données remontant au début de la croissance, c'est-à-dire 1840, 1820, 1840, qui montrent vraiment un effet causal de l'innovation sur la croissance. Vraiment important. Donc, c'est pas juste moi qui vous dis que l'innovation génère la croissance. C'est historiquement vrai.
Ça veut dire quand même, Philippe Aguillon, que vous partez du postulat que la croissance crée du bien-être ?
Pas forcément. Voilà. Moi, je suis pour la croissance des utils. Et je pense que la croissance, je crois beaucoup dans une croissance qui vous donne une qualité de vie meilleure. D'accord ? Mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. On voit bien, nous, si on avait un demi-point de croissance en plus du PIB, qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir ? Eh ben, davantage d'investissements dans la recherche, dans la santé, et on est quand même très contraint par notre faible taux de croissance. Ça nous permettrait de rembourser notre dette beaucoup plus facilement et de faire d'autres choses. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue à faire le bonheur. Après, évidemment, je suis d'accord, il faut aller vers une croissance plus verte, inclusive, la qualité de vie. Donc, je pense à tout ça, bien sûr. Je ne crois pas que... Et c'est pas juste la croissance du PIB que je dois regarder. C'est la croissance de la qualité. Par exemple, vous allez chez un dentiste maintenant, vous avez beaucoup moins mal qu'il y a 60 ans. C'est pas compté dans le PIB. Moi, ce que j'appelle la croissance, c'est l'innovation, en fait. C'est le fait qu'il y ait des nouvelles technologies qui permettent d'améliorer votre confort. Voilà, dans les usines, les ouvriers souffrent moins parce que maintenant, beaucoup est fait par des robots. On travaille moins longtemps et il y a moins de pénibilité au travail qu'il y en avait il y a 50 ans. Parce que c'est l'innovation qui vous a permis ça.
Est-ce que c'est pas très optimiste comme raisonnement ? Parce que Schumpeter lui-même, il était plutôt pessimiste sur l'avenir du capitalisme. Oui, mais vous montrez très optimiste
alors,
quand même.
C'est intéressant, le pessimisme de Schumpeter. Parce que lui, il disait, les innovateurs, les premiers innovateurs, ils vont empêcher de nouveaux innovants. Ça, il avait compris. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il y avait un rôle de l'État avec la politique de concurrence. Il ne comprenait pas bien la relation entre concurrence et innovation, en fait. Hein. Il pensait que la concurrence était forcément mauvaise pour l'innovation. Alors que la concurrence peut être bonne pour l'innovation. J'innove pour échapper aux concurrents.
Peut-être parce qu'il anticipait l'élimination des petites et des moyennes entreprises par des grands conglomérats.
Mais lui, c'est un peu ce qui se passe. Bien, lui. Il trouvait qu'il fallait des grosses rentes de monopole. Vous voyez, il pensait que tout ce qui réduisait les rentes de monopole, dont la concurrence, c'était mauvais pour l'innovation. Il n'a pas bien compris. Il y a cet effet de découragement, mais il y a un effet qui est de dire je permets à des nouveaux innovants et puis j'innove pour échapper à la concurrence. Comme il n'avait pas fait de modèle, il ne voyait pas que pour des niveaux faibles de concurrence, mon effet d'innover pour échapper à la concurrence domine les autres effets et qu'à des niveaux très élevés de concurrence, alors son effet à lui peut dominer. Et c'est là qu'il y a l'apport avec Howitt, c'est qu'on a fait un modèle qui permet de dire quand est-ce qu'un effet domine et quand est-ce que l'autre effet domine. En fait, si je regarde la relation entre concurrence et croissance, c'est une courbe en U inversée. Pour des niveaux faibles de concurrence, plus de concurrence augmente la croissance par l'innovation. Et pour des niveaux très élevés de concurrence déjà, plus de concurrence réduit, décourage l'innovation. C'est très intéressant. Il fallait écrire un modèle pour le dire.
Mais vous vous rendez compte la complexité des conditions que vous y mettez pour que nous soyons dans une société où du bien-être, où la croissance fait du bien et où tout le monde est heureux, où il y a des petites, des moyennes, des grosses entreprises.
Mais moi, je suis un optimiste de combat, c'est-à-dire que je pense qu'on peut se battre. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive vers ça. Ben, les Danois se débrouillent, ils sont une société qui ils ont de l'innovation, ils ont de la mobilité. Ça, même la Suède, avec les défauts dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un pays d'innovation avec beaucoup de mobilité sociale. Donc, on sait qu'on peut y arriver. Moi, j'ai pas une idée abstraite. Il y a des pays qui sont déjà sur ce chemin-là. Et donc, moi, ce que j'espère, c'est que nous irons davantage encore dans ce chemin.
À quelles conditions, puisque votre théorie sur la croissance par destruction créatrice, Philippe Aguillon, s'applique parfaitement, et je pense à tout niveau, à l'intelligence artificielle aujourd'hui,
oui.
Aussi bien dans les espoirs que cela peut susciter que dans les craintes.
Oui.
À quelles conditions, selon vous, pourrait-on mettre en place une politique à la fois d'innovation, de recherche et une politique publique qui permettrait à la société d'avancer avec l'intelligence artificielle,
oui,
dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas. Alors, ce qu'il faudrait faire, donc ce que les recommandations de notre rapport, c'était de dire d'abord, l'IA, c'est de la donnée et de la puissance de calcul. Donc déjà, nous, on a des très bonnes données de santé. Mais par exemple, pour que les chercheurs accèdent à ces données, il fallait l'autorisation préalable de la CNIL, de la Commission nationale
Informatique et liberté.
D'accord ? Nous, on a obtenu qu'il n'y ait plus besoin d'autorisation préalable parce qu'on avait trop de réglementations pour l'accès aux données. Donc déjà, rendons très facile l'accès aux données. Voilà. Ensuite, en Europe, on a trop de réglementations. Ça, c'est clair. Il faut des réglementations, mais on en a trop. Et les réglementations, ça décourage les nouveaux, surtout. Les grosses entreprises, les GAFAM, elles savent faire. Mais les nouveaux qui veulent démarrer des nouvelles entreprises en IA, ils sont rebutés par les réglementations. Donc, il faut réglementer, mais pas trop. Et puis, tout ce qui est open source, ça facilite la concurrence et l'entrée de nouveaux acteurs. Donc, il vous faut d'abord une politique de concurrence, vraiment, qui partage de données, Digital Market Act, étendu à toute la chaîne de valeur de l'IA, y compris le cloud, qui est maintenant où il y a essentiellement Amazon, Google, Microsoft. Il faut étendre le Digital Market Act à toute la chaîne de valeur de l'IA, open source à fond, pas trop de réglementation, les données, accès facile. Tout ça, c'est très important, d'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Il faut de la concurrence et il faut laisser l'entrée et faciliter l'entrée, d'accord ? Et puis sur la puissance de calcul, il faut là une vraie politique industrielle de l'IA. Je pense que c'est plus important qu'un porte-avions. C'est vraiment de développer de la puissance de calcul en Europe. Voilà. Et il faudrait créer un CERN de l'IA en Europe. Vous savez que le centre, l'accélérateur de particules à Genève. Il faudrait créer l'équivalent en IA. Il faut vraiment faire de la politique industrielle au service de la concurrence, en fait. Parce que si je crée des centres de calcul et des hubs d'IA en Europe, eh bien, je vais aider beaucoup de nouvelles entreprises qui veulent se développer en IA. On a de très bonnes données en santé ou dans d'autres domaines. S'il y a de la puissance de calcul locale et s'il y a des infrastructures locales, ça va permettre à des nouvelles entreprises d'émerger. Vous voyez, Yann Lequin, la bonne nouvelle de Davos, c'est Yann Lequin, un pilier de l'IA, il a eu le prix Turing, il est formidable. Bon, il était chercheur en chef chez Meta, il quitte Meta et il vient en France faire la nouvelle révolution de l'IA, à l'intérieur de la révolution de l'IA. Il dit qu'il va aller au-delà des modèles de langage. Et donc, il va créer une nouvelle IA. Si ça se fait chez nous, ça serait formidable quand même, voyez. Donc, il faut lui donner les moyens de faire ce qu'il veut et de se développer, voilà. Et il y aura d'autres, Arthur Munch, il faut lui donner les moyens
Arthur
de se développer.
Arthur Munch, c'est souvent votre référence.
Oui, mais il y a Yann Lequin, il y en a d'autres, voyez ce que je veux dire. Et il faut leur donner, l'Europe est attrayante justement parce que c'est des gens aussi qui valorisent la démocratie, la liberté, le modèle social et environnemental dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, je parlais du soft power de l'Europe. Donc, ils viennent chez nous pour ces raisons-là. Et donc, il faut leur offrir les moyens de se développer l'écosystème financier, leur créer un environnement fiscal et réglementaire qui également les aide au lieu de les entraver. Et je pense que ça, c'est très important.
C'est aussi ce qui a expliqué, Philippe Aguillon, que vous vous soyez opposé à la taxe Zuckman qui visait à taxer les 1800 contribuables qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Ils souhaitent les taxer à hauteur de 2%. Et vous, vous avez dit non, parce que si on met en place cette fiscalité, ça va nuire à l'innovation et par exemple à des innovateurs comme Arthur Mensch de Mistral, qui est donc souvent votre référence, c'est ça ?
Oui, alors absolument. Par exemple, si vous voulez, typiquement des nouvelles entreprises du type IA, mais il y en a dans d'autres domaines que l'IA, mais dans l'IA notamment, ils sont très valorisés en ce moment. 12 milliards, je crois, pour Mistral, mais ils ne font quasiment pas de revenus pour le moment, d'accord ? Donc, ils sont valorisés. Mais si demain, il y a un éclatement de la bulle IA, les 12 milliards fondent et deviennent 3 ou 4 milliards. Vous voyez, j'en sais rien. Les bulles peuvent éclater. Vous voyez, donc, on leur demande de payer des impôts sur les 12 milliards. Donc, ça veut dire que Arthur Munch, ou ça veut dire que demain, Yann Lequin, s'il est très valorisé, sa valorisation augmente jour par jour, il doit chercher à emprunter pour pouvoir payer des impôts sur des revenus qu'il n'a pas générés. Alors que ses concurrents dans d'autres pays vont emprunter pour se développer. Donc, qu'est-ce que va faire Yann Lequin ? Il va mettre la clé sous la porte ou il va aller faire ça ailleurs ? Et voilà ce qui va se passer. Tu mets la taxe Zuckman en place, Yann Lequin quitte la France. Je vous le dis tout de suite.
Vous ne pensez pas que...
Voilà. Et donc, l'IA, on n'est plus un pays d'IA. On fait autre chose, mais on n'aura pas l'IA. Alors qu'on a des merveilleux mathématiciens comme Yann Lequin, comme Arthur Munch, des gens formidablement bien formés en mathématiques et en informatique. On a des cerveaux extraordinaires qu'on forme si bien chez nous. Eh bien... Si vous mettez une taxe Zuckman, ces gens-là vont aller faire l'IA ailleurs. Je veux dire, dans la plupart des pays, vous l'avez dans les pays scandinaves, ils ne sont pas du tout prêts à mettre une taxe Zuckman, pas du tout. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tout le monde paye des impôts comme il devrait les payer. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de taxation du tout. Simplement, je ne prends pas dans cette taxe-là. Je pense, par contre, qu'il y a un abus, et j'ai beaucoup poussé, d'ailleurs, on va dans cette direction en France, personnellement, il y a la niche du treille, pour faciliter les successions d'entreprises, mais il y a des gens qui abusent de la niche du treille en mettant des biens non professionnels dans la niche, je crois que c'est en train d'être changé. Là, ça n'allait pas, voyez. Et donc là, il y a également des abus sur les holdings patrimoniales. Il y a des gens qui créent des holdings patrimoniales, qui achètent leurs chalets et leurs avions personnels sur les holdings patrimoniales. Ça, ça va pas, ça. Donc il faut réguler tout ça. Donc moi, je suis pas en train de me dire, ne taxons pas. Je pense que tout le monde doit contribuer à l'effort fiscal, y compris les gens les plus riches qui doivent contribuer.
Pour vous,
mais
la
sur la base de ce qu'ils ont déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'une richesse qui n'existe pas. Parce que sinon, vous découragez l'innovation. Les gens disent, je vais aller ailleurs, je fais autre chose. C'est pas juste partir ailleurs. Parce que vous voyez, c'est pas juste de dire européen. C'est pas juste que j'ai peur qu'Arthur Mensch parte ailleurs. C'est qu'il va dire, décider, je vais faire autre chose que de l'IA. Pourquoi je dois m'embêter à prendre des risques énormes si j'ai toutes ces tracasseries et je dois chercher des financiers pour payer des impôts sur, je vais faire autre chose.
Vous disiez aussi, Philippe Haillon, tout à l'heure, que vous teniez compte, d'une certaine façon, des limites alors écologiques, des implications politiques et sociales, des réflexions, disons, sur la post-croissance. Certains même parlent de décroissance,
oui,
mais sur la post-croissance.
Oui.
Vous avez aussi beaucoup réfléchi et travaillé sur la croissance verte.
Voilà, c'est ça. Je pense, si vous voulez, que d'abord, il y a beaucoup de choses que disent les économistes de la décroissance où ils ont raison. Ils disent que le réchauffement climatique a à voir avec la croissance. Absolument. Si vous regardez le moment historiquement où il y a eu décollage de la croissance, c'est en 1820 avec la première révolution industrielle. Si vous regardez l'évolution de la température, elle se met à augmenter très vite à ce moment-là. Il n'y a pas photo. Absolument. Le réchauffement climatique a tout à voir avec la croissance. D'accord? Donc on est d'accord là-dessus. Deuxième chose qu'ils disent, il faut être sobre. Ils ont raison. Soyons plus sobres. Là, j'ai allumé des lumières, mais j'allume moins de lumières que j'en allumais, ou je prends moins l'avion, la sobriété dans nos comportements. Ils ont raison. Ils disent qu'il faut aller de la quantité vers la qualité. Ils ont raison. Ils disent que la croissance du PIB ne mesure pas tout. Ce que vous disiez tout à l'heure. Ils ont totalement raison. Néanmoins, il faut de l'innovation verte. Pourquoi ? Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Qu'est-ce que c'est l'innovation verte ? C'est dans nos comportements. Ça, c'est très important. C'est de trouver des sources d'énergie propres. Il nous faut ça. On mise beaucoup sur la fusion nucléaire, peut-être sur d'autres choses. Bon. Il faut produire avec moins d'énergie. Donc ça va permettre de ralentir le réchauffement climatique. Il y a des innovations d'adaptation. Également, comme le niveau de la mer augmente, il va falloir construire des digues. Il va falloir avoir des systèmes d'air conditionné moins chers et qui consomment moins d'énergie. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où ça va devenir invivable sans air conditionné. Ça, c'est ce que j'appelle les innovations d'adaptation. Et puis, il y a des gens qui travaillent à des innovations d'amélioration, c'est-à-dire qui refroidissent l'air. C'est ce que j'appelle la géo-ingénierie. Le département de physique d'Harvard, il s'est rendu compte que quand il y a des éruptions volcaniques, l'air se refroidit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des particules de soufre qui sont jetées dans l'air et elles font écran avec le soleil et ça refroidit l'air. Eh bien, ils sont en train de voir comment maîtriser cette technologie pour refroidir l'air. Il y a une autre technologie pour refroidir l'air, c'est les abat-jours géants dans l'espace. Donc il y a ce qui va nous sortir du truc, c'est l'innovation verte. Le tout, c'est que comment j'induis l'innovation verte ? Voilà. Et tout le problème, mais aussi d'aller vers la qualité. C'est-à-dire, on va aller moins vers la quantité, on va aller vers des innovations qui améliorent la qualité, qui sont donc très intensives en service et donc moins polluants. Et donc ça, c'est intéressant d'aller vers ça également. Donc je pense que là, on va pas s'en sortir sans l'innovation verte. Mais c'est une innovation qui va nous faire croître en qualité. On va vivre mieux.
Je crois qu'on a bien compris, en tout cas, au cours de cette émission, à quel point, Philippe Haillon, on peut aller de la théorie à la pratique et à quel point la mise en application des théories change absolument tout en fonction des politiques qui sont mises en place. Et vous l'avez bien rappelé, l'État est important, la société civile est importante. Eh bien, ça nous prépare pour l'épisode suivant, l'épisode 4, Portrait de l'économiste en politique. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Philippe Haillon, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Clément Vuillet, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.